Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur le mea culpa de Guillaume Soro. En Côte d'Ivoire, l'ex-chef rebelle devenu président de l'Assemblée nationale demande pardon aux Ivoiriens pour toutes les offenses qu'il a pu commettre depuis 2002. Guillaume Soro plaide en faveur de la réconciliation. Il insiste sur la nécessité d'une vraie repentance entre Ivoiriens. Et il demande pardon, y compris à son principal adversaire du passé, l'ex-président Laurent Gbagbo, jugé en ce moment même à la Cour pénale internationale. Alors, êtes-vous surpris par cette déclaration? Que vous inspire ce mea culpa? Faut-il y voir, comme vous êtes nombreux d'ailleurs à nous le souligner, à nous le rappeler sur la page Facebook de l'émission, des intentions électoralistes de la part de l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne? Nous en parlerons dans 30 minutes. Vous êtes très très nombreux, plus d'un millier de commentaires postés sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter le débat et vous continuez à nous rejoindre au standard 33 9 693 693 1370. On fera en sorte que le plus grand nombre d'entre vous puisse évidemment s'exprimer tout au long de ce débat. Mais d'abord, comme tous les matins, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, s'il vous manque des clés pour décrypter certains sujets, pour mieux comprendre l'actualité, eh bien appelez-nous. Les journalistes et les experts de RFI vous répondent en direct. Et Paulin est en ligne. Paulin est en ligne de Libreville. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Des questions sur la Libye.
Ouais, sur la Libye et plus précisément sur l'office aîné de Mamad Kadhafi.
Oui.
Nous avons appris à travers à travers RFI que depuis sa libération au début du mois de juin dernier, l'office aîné de Mamad Kadhafi, Saïf El Islam, n'est pas réapparu en public et même annulé son discours de fin de Ramadan. Pour cela, j'ai deux préoccupations. Comment expliquer ce silence depuis sa sortie de prison? Et par ailleurs, beaucoup de théories circulent sur le lieu où il se trouve. En sait-on plus sur ce sujet?
Ouais, où se trouve Saïf al-Islam Kadhafi? Bonjour Houda Ibrahim.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique de RFI, c'est vrai que les auditeurs sont très nombreux à se poser cette question, les observateurs également. Rappelons tout de même que le fils de Muammar Kadhafi avait été capturé un mois après la mort de son père, c'était en novembre 2011. Après 7 ans de détention, il a été libéré au début du mois de juin, comme le rappelait à l'instant Paulin, libéré par un groupe armé de la ville de Zintan, et depuis 6 semaines maintenant, Saïf al-Islam a disparu de tous les écrans radar. Comment expliquer ce silence?
D'abord, c'est une question de sécurité. Il craint énormément pour sa sécurité et il a ses raisons. On sait que beaucoup de partis en Libye et à l'extérieur de la Libye ne veulent pas voir Saïf al-Islam peut-être à nouveau au pouvoir. Et c'est une très grande raison qui le pousse pour le moment à se cacher en quelque sorte. Et je pense que très peu de monde en Libye et ailleurs savent où il est. Et même les gens qui sont en contact direct avec lui ne dépassent pas le nombre de doigts d'une seule main.
Ah oui, ouais. C'est-à-dire que même ses avocats, et on l'a pu l'entendre sur notre antenne, assurent qu'ils ne savent pas où il se trouve en ce moment. Mais lorsque les partis...
Et ils ne l'ont pas en direct, jamais.
Jamais en direct. Donc il prend un maximum de précautions, justement.
Pas de téléphone.
Oui, pas de téléphone. Lorsque ses partisans disent « nous sommes convaincus que l'OTAN chercherait à le tuer »,
L'OTAN a déjà essayé, donc il y a de quoi penser ça chez les partisans surtout. Et parce que je pense, si je me mets en observateur par rapport à la scène libyenne, que l'Occident, l'OTAN aujourd'hui, ne le voit pas au pouvoir en Libye, et peut-être ne veut pas un homme fort pour la Libye aujourd'hui, peut-être l'OTAN veut quelqu'un qui peut ou qui est capable d'appliquer la politique de l'OTAN dans cette région du monde. En tout cas, tous les pays, de toutes les façons, demain, on va avoir peut-être une rencontre entre le général, le maréchal Khalifa Haftar et le premier ministre libyen Faiz Sarraj à Paris. Mmh. Et chaque pays essaye d'imposer ou de faire une initiative qui explique son point de vue et sa vision de la chose et de la Libye et de la politique libyenne dans l'avenir.
Ouais. Donc, on parle également du Qatar, le Qatar qui chercherait à le tuer. Là aussi, ce sont des informations vérifiables ou pas ?
Bien sûr, je ne l'ai pas écrit si je ne l'ai pas vérifié. Mmh. Et c'est à travers des islamistes qui sont en Libye et une partie du conseil militaire qui le détenait à Zintan. C'est pour ça qu'il a quitté Zintan et plus d'une fois, ils ont essayé de le tuer pendant qu'il était emprisonné là. Et c'est pour ça, l'Ajmi Al-Atayri, le chef de la Katiba, de la brigade qui le détenait, est aujourd'hui emprisonné. Et on parle qu'il faut le juger donc, par rapport au conseil militaire dirigé par quelqu'un qui est très proche de Qatar et qui a des relations avec les islamistes libyens, dont un qui vit aujourd'hui au Qatar.
Donc à vous entendre, Saif al-Islam Kadhafi a encore beaucoup d'ennemis. Il reste un homme à abattre, finalement. Le mystère reste entier sur le lieu où il aurait trouvé refuge. Est-ce qu'il serait, selon vos informations, Ouda Ibrahim, toujours en Libye ?
Je ne sais pas. En Libye, oui, bien sûr.
C'est sûr.
Il n'a pas quitté la Libye. Mais sur le lieu où il se trouve, j'ai dit... Presque personne ne sait où c'est. Alors, certains médias nous ont fait dire à RFI que Saif al-Islam est à Oubari. Et moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il est peut-être, selon des gens qui essayent de voir, de deviner, mais je n'ai pas dit du tout qu'il était à Oubari. C'est l'un des endroits, parce qu'il y a le Touareg, et le Touareg était très fidèle. Ils le sont toujours à son père, à la famille Kadhafi. Et il peut être chez eux, mais ce n'est pas du tout sûr. Et je veux rajouter pour peut-être conclure là-dessus, c'est que Saif al-Islam, peut-être maintenant, il se cache, il se prépare, il se préserve pour les élections annoncées pour l'année prochaine. Si ces élections se font, peut-être il aura une forte chance de participer à ces élections et il a toujours une grande popularité en Libye. Et ailleurs en Afrique d'ailleurs.
Et ailleurs en Afrique, on a vu notamment des comités de soutien se créer au Niger, mais aussi en Égypte.
En Égypte.
Donc effectivement, Saif al-Islam a ses partisans à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur, à l'étranger. Merci beaucoup Ouda Ibrahim d'être venu nous faire partager votre expertise, votre savoir sur la Libye. Paulin, on vous souhaite une bonne journée à Libreville. Merci de nous avoir appelés. Merci à vous surtout.
Merci.
Bonne journée. 10h17 à Paris. Ce sont vos questions. 33 9 693 693 70. Bonjour Martial.
Bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs du RFI. Bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Merci. Vous êtes à Brazzaville et vous avez des questions sur Laurent Gbagbo poursuivi pour crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale.
Bien sûr Juan. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé de réexaminer la demande de liberté provisoire de Laurent Gbagbo. Mais ce dernier reste toujours en prison. Le juge en charge de ce procès parle des erreurs lors du premier jugement. Quelles sont-elles ? Malgré cette décision, comment expliquer que Laurent Gbagbo ne soit pas toujours libéré ?
Bonjour Florence Maurice. Florence Maurice ? Ah, on a peut-être. Ah, voilà, on vous entend quand on appuie sur le bon bouton pour ouvrir le son. Effectivement, c'est nettement mieux. Merci d'être avec nous, Florence Maurice. Vous suivez ce dossier pour RFI. On rappelle qu'à ce jour, les avocats de Laurent Gbagbo ont déposé 11 demandes de libération conditionnelle devant la Cour pénale internationale. 11 recours systématiquement rejetés. Mais la semaine dernière, la Cour d'appel de la CPI a ordonné à la Chambre de première instance de réexaminer la situation de l'ancien président ivoirien. Les juges ont invoqué, effectivement, comme le rappelait notre auditeur, des erreurs. De quelles erreurs s'agit-il ?
En fait, il y a trois erreurs principales qui ont été notées par la Chambre d'appel. La première, c'est qu'en première instance, avant d'ordonner le maintien en détention de Laurent Gbagbo, les juges n'ont pas examiné dans le détail la durée de la détention. Or, on sait que Laurent Gbagbo a déjà passé près de 6 ans en prison, le temps du procès, 18 mois, et puis le temps avant le procès qui a été particulièrement long, puisqu'on se souvient que le dossier de la procureure au moment de la confirmation des charges avait été rejeté une première fois, ce qui avait augmenté le délai. Et puis, au rythme où va la procédure actuellement, on peut estimer qu'aucun verdict ne serait rendu avant 2022, ça voudrait dire 11 années au total de détention préventive. Or, le droit stipule qu'un accusé doit être jugé dans un délai raisonnable. Alors, comment on définit un délai raisonnable ? C'est au juge de l'évaluer, mais 11 ans, On sait qu'au regard de la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière, on a largement dépassé ce délai et on sent que cette question de la durée prend de plus en plus de place dans les discussions autour d'une éventuelle remise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo, parce que là, la CPI est un peu confrontée à une de ses limites, hein, elle a des procédures complexes, il faut faire venir tous les témoins, tout ça prend beaucoup de temps, mais elle doit aussi être garante de la présomption d'innocence de ses accusés. La deuxième erreur qui a été notée, c'est que le dossier médical de Laurent Gbagbo, c'est pas le dernier dossier médical qui a été examiné par les juges. Ils se sont basés en fait sur des précédentes décisions, en estimant que sur ce point, la situation n'avait pas évolué. Et ça a été retoqué, on va dire, par la Chambre d'appel, qui leur demande de se baser sur les derniers éléments et aussi de tenir compte de l'âge de Laurent Gbagbo, hein, 72 ans, un argument qui n'avait pas été examiné en première instance. La troisième erreur, c'est que parmi les arguments qui ont été avancés pour justifier son maintien en détention, il y a le fait que Laurent Gbagbo ne reconnaisse pas sa responsabilité, qu'il nie les faits, hein, c'est sa stratégie dans ce procès. Voilà. Autrement dit, le fait que l'accusé ne reconnaisse pas sa responsabilité pourrait renforcer la probabilité d'une tentative de fuite en cas de remise en liberté provisoire, hein, puisque c'est ça que craignent les juges concernant Laurent Gbagbo. Mais cet argument a été balayé aussi par la Chambre d'appel parce que un accusé a le droit de garder le silence et sinon c'est aussi aller contre sa présomption d'innocence en quelque sorte.
Et malgré ces erreurs, Florence Maurice, les juges de la Cour d'appel n'ont pas remis en cause la décision prise en première instance, celle de maintenir Laurent Gbagbo en prison.
Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il n'a pas été libéré. C'est pas forcément ce qu'on demandait à la Chambre d'appel. La Chambre d'appel aurait pu décider, effectivement, à la place de la première instance. Mais ce qu'on lui demandait, c'était déjà juste de dire est-ce que le jugement a été bien rendu la première fois. Donc, elle n'était pas obligée de statuer sur la liberté provisoire vraiment de Laurent Gbagbo. En revanche, voilà, il y a un argument central qui justifie jusqu'à présent, hein, vous l'avez dit, il y a eu 11 demandes de remise en liberté provisoire. L'argument central pour le maintenir en détention jusqu'à présent, c'est que Laurent Gbagbo dispose, on le sait, d'un réseau de supporters actifs et fidèles. Il a toujours un parti politique, hein, le FPI, qu'il soutient, et que ce réseau pourrait l'aider à fuir en cas de remise en liberté provisoire. Cet argument, qui est vraiment l'argument massu qui justifie son maintien en détention a été confirmé par la chambre d'appel. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été remis en liberté provisoire. La défense de Laurent Gbagbo disait il n'y a pas de preuve d'un réel plan d'évasion, il n'y a pas de preuve suffisante qu'il chercherait ou que ses supporters pourraient être en train d'élaborer un plan pour l'aider à fuir. Mais la chambre d'appel, comme la chambre de première instance, pense que le risque que cela se produise suffit finalement à justifier un maintien en détention. Voilà, donc après c'est une question d'équilibre entre tous ces arguments et c'est ce que vont devoir redécider les juges qui ont donc été à qui on a ordonné de réexaminer
en sachant qu'aucune date n'a été fixée pour le réexamen du dossier de Laurent Gbagbo.
Voilà, aucune date n'a été fixée. Là, on est dans les vacances judiciaires, hein, donc ça va reprendre le 28 juillet. Là, il faudra encore quelques semaines pour que les deux parties se préparent. Il y a aussi une autre question, c'est qu'en cas de remise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo, il faudrait trouver les conditions de sa liberté. C'est pas évident, hein. Il faudrait trouver un pays qui l'accueille, qui garantisse qu'il ne va pas l'aider à se soustraire à la justice, qui ne soit pas trop loin, hein, puisqu'on sait que Laurent Gbagbo est tenu d'assister à son procès. Donc tout ça, ça laisse pas beaucoup de possibilités. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, il n'a pas été remis en liberté. Malgré tout, on voit que au fur et à mesure de ces demandes systématiques de remise en liberté provisoire et à mesure que le temps du procès s'allonge, la défense progresse quand même, hein, dans sa tentative d'essayer de le remettre en liberté provisoire. Il faut peut-être rappeler que en mars dernier, donc en première instance, il y a trois juges qui ont décidé de le maintenir en liberté provisoire, enfin qui étaient en charge de cette décision. Et il y a un des trois juges, le juge Tarfusser, qui est le président de la Chambre, qui pour la première fois avait rendu une décision dissidente et lui avait plaidé pour une remise en liberté sous condition. Donc voilà, ça veut dire que là, on se dirige vers un réexamen. Est-ce que le débat et la décision de la Chambre d'appel va faire basculer un nouveau des trois juges, auquel cas la majorité changerait de camp, c'est toute
à suivre.
La question.
Effectivement, en tout cas, c'est vrai que la décision de la Cour d'appel de la CPI est considérée comme une petite victoire pour Laurent Gbagbo. Merci beaucoup, Florence Maurice, d'avoir été avec nous. Martial, on a répondu à vos questions?
Oui, ça va, je suis satisfait.
Bonne journée à Brazzaville et merci d'avoir été avec nous ce matin. Je me fais le porte-parole de Jean-Marie. C'est bien dommage, Jean-Marie qui nous appelait de Belgorod. C'est dans le sud-ouest de la Russie, près de la frontière avec l'Ukraine, malheureusement. Le réseau téléphone n'arrête pas de couper et Jean-Marie ne peut donc pas poser en direct sa question. Donc je me fais son porte-parole. Il revient donc sur la main tendue de la Corée du Sud à la Corée du Nord, puisqu'il a entendu sur notre antenne que Séoul avait officiellement demandé à la Corée du Nord de négocier. Peut-on voir cette demande comme un changement de cap de Séoul dans sa stratégie? Et si jamais cette rencontre a bel et bien lieu, quels pourraient être les points prioritaires discutés entre les deux dirigeants? Nous demande donc Jean-Marie. Juliette Morillo est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des deux Corées, vous publiez ce mois-ci une version réactualisée de votre ouvrage de référence, La Corée du Nord en 100 questions, c'est aux éditions Taillandier. C'est vrai qu'on peut parler véritablement d'un changement de stratégie de la Corée du Sud vis-à-vis de son voisin nord-coréen. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu Séoul demander à Pyongyang de dialoguer.
C'est vrai, mais en fait, c'est tout simple. Il se trouve que nous avons un nouveau président en Corée du Sud, Moon Jae-in, qui a été élu en mai à la suite de la destitution de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Et donc, il met fin par sa politique très claire de rapprochement avec Pyongyang à 9 années de pouvoir conservateur et de lignes très dures envers Pyongyang. En fait, il renoue avec ce qu'on appelait la Sunshine Policy, la politique du rayon de soleil des années 2000 qui avait donné notamment un sommet à Pyongyang entre Kim Tae-jong et à l'époque Kim Jong-il. Donc c'est un changement de cap radical. Moon Jae-in s'est fait élire notamment sur la promesse de renouer avec Pyongyang et d'engager des relations directes. Et on voit que lors de l'essai du missile balistique intercontinental du 4 juillet, ce qui était quand même une provocation énorme vis-à-vis des États-Unis, la Corée du Nord a réagi de façon extrêmement sobre en disant que ça ne l'empêcherait pas d'essayer d'entamer le dialogue, ce qui est probablement la seule façon de dénouer les tensions sur la péninsule.
Et il s'agirait de dialoguer sur quelle thématique d'abord?
Alors je pense que dans un premier temps, il s'agit de renouer les liens tout simplement avec Pyongyang. C'est-à-dire il faut savoir que toute relation a été coupée. Il n'y a plus de téléphone, l'équivalent d'un téléphone rouge entre les deux Corées. Il n'y a plus de rencontres mensuelles entre les deux Corées, ce qui était régulier d'un point de vue militaire. Sur la DMZ, la ligne de démarcation qui les sépare, le 38e parallèle. Et puis, ce serait peut-être renouer déjà aussi des points économiques, comme réouvrir la zone de Kaesong. La zone de Kaesong, c'est une zone industrielle intercoréenne qui était en territoire nord-coréen, inaugurée en 2004, dans laquelle travaillaient comme une sorte de laboratoire d'une future unification des équipes coréennes et des équipes sud-coréennes. Elle a été fermée en février 2016 et maintenant est presque à l'abandon. Donc il faudrait renouer les relations économiques. Et dernier point, peut-être, c'est très symbolique parce qu'il y en a de moins en moins, organiser avec la Croix-Rouge des rencontres entre des familles séparées par la guerre de Corée. Donc maintenant, ce sont des vieilles personnes. Ce sont des rencontres très symboliques entre les deux pays qui ont toujours fait avancer les choses.
Ouais, des rencontres qui ont été suspendues depuis 2 ans maintenant. En deux mots, il nous reste 20 secondes. Juliette Morillo, pour l'instant, la Corée du Nord n'a pas répondu à la proposition sud-coréenne.
Non, elle n'a pas répondu à la proposition sud-coréenne pour une simple raison. La Corée du Nord cherche avant tout un dialogue avec Washington. Les tensions sur la péninsule actuelles sont entre Washington et Pyongyang.
Donc discussion directe avec Washington, pas question de négocier avec la Corée du Sud qui, rappelons-le, est considérée par Pyongyang comme étant la marionnette des Américains. Juliette Morillo, je vous interromps, je suis désolé. Merci une fois de plus d'avoir été en direct avec nous et d'avoir répondu aux auditeurs de RFI. Tout de suite, le journal.